Bienvenue à tous, vous êtes dans le collimateur de l'actualité. Magloire Mpembi, Kerwin Maizo, Vianney Missoumbi, à suivre sur www.sudglobalradio.com et sur la chaîne YouTube Kerwin Maizo. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2022 et dans ce numéro du collimateur de l'actualité, nous allons aborder trois sujets d'actualité. Il s'agit du conflit Russie-Ukraine, de la visite à Kinshasa des artistes Edoxi et Grampé, et enfin de la santé des chefs d'État africains qui se font régulièrement soigner à l'étranger. Merci de nous suivre, merci de partager, merci de commenter et surtout, n'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de lecture de podcast préférée. Kerwin Maizo, bonsoir.
Bonsoir Magloire, bonsoir à tous.
Alors, c'est le quatrième numéro du collimateur de l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler de trois sujets principalement. Mais avant de les aborder, je voudrais donner quelques informations tristes qui sont arrivées ces dernières heures au Congo-Kinshasa. D'abord, il y a eu le 11 mars 2022 un déraillement d'un train de marchandises dans le Lualaba qui a causé la mort au moins de 60 personnes. Le train avait quitté la ville ou la cité de Kitenta en direction du village de Bouyofoué. Toutes nos sympathies aux familles qui ont perdu les leurs dans cet accident. Une autre information triste, une attaque rebelle à Beni a causé près de 30 morts. Au moins 27 personnes ont été tuées à la machette samedi dans l'est de la République démocratique du Congo, en RDC. RDC, un nouveau massacre attribué au groupe armé d'origine ougandaise Force démocratique alliée. On va rappeler que depuis quasiment 1994, avec les massacres, les génocides qui ont eu lieu au Rwanda, l'est de la République démocratique du Congo est dans une situation d'instabilité et dans une situation de guerre larvée. Et la ville de Beni, la ville de Butembo, le Nord Kivu, le Sud Kivu payent un lourd tribut à ces exactions. Russie-Ukraine. C'est le premier thème de notre rencontre aujourd'hui. La Russie a lancé une opération militaire contre l'Ukraine le 25 février 2022. C'est le grand sujet d'actualité dans les relations internationales ces derniers temps. Plusieurs pays dans le monde ont dénoncé cette invasion, je mets le terme entre guillemets, parce que les Russes, eux, parlent de libération. Il y a aussi un bon nombre de pays dans le monde qui se sont abstenus. Il y en a qui ont carrément manifesté leur soutien à la Russie. Dans ce contexte, il y a quelque chose dans l'attitude de l'Occident que l'on peut résumer par le mot suivant, le double standard. En fait, l'Occident a pris fait et cause pour l'Ukraine, et on peut le comprendre dans une certaine mesure. L'Occident a pris des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques, des sanctions financières, mais aussi des sanctions contre des personnes qui ne sont pas directement liés au conflit. Je veux citer par exemple que les athlètes russes sont écartés de beaucoup de compétitions, les artistes russes sont interdits de se produire. Au Canada par exemple, à Montréal, un jeune pianiste russe de 20 ans qui devait jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal a vu ses prestations annulées. Et même, ça pourrait paraître anodin, dans les concours de félins, les chats d'origine russe ont été bannis. C'est quand même assez sérieux. Et dans ce contexte-là, on a observé de la part des Occidentaux une attitude différente par rapport à l'accueil de réfugiés. On va écouter rapidement un journaliste français, éditorialiste assez connu, Christophe Barbier, nous dire lui-même en des termes assez révélateurs cette attitude différente qu'a l'Occident par rapport aux réfugiés selon qu'ils seraient européens ou pas. On l'écoute.
Il y a un geste humanitaire immédiat, évident. Pourquoi ? Parce que d'abord, la nature des réfugiés n'est pas contestable. On voit bien ce qu'ils fuient et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. Ensuite, parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. Et puis également, parce qu'au-delà du secours d'urgence, il y a l'idée que cette situation ne va pas s'éterniser pendant des années. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration pour s'installer définitivement. Je pense qu'à un moment donné, ils aspireront à retourner dans leur pays quand il aura retrouvé la paix, si possible la souveraineté. Encore que, rappelons-nous que nous avons, après la révolution de 1917, accueilli des Russes qui fuyaient leur pays en guerre civile, des Russes blancs, comme on les appelait. Beaucoup d'entre eux sont restés et sont encore aujourd'hui ici. Il y a un geste
humanitaire immédiat, évident. Alors là, c'était Christophe Barbier. On va encore rapidement écouter un autre éditorialiste qui, lui, ne prend pas non
plus. Ce sont des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit.
Voilà. Ces deux propos illustrent bien l'impression qu'on a qu'il y a un deux poids deux mesures dans l'accueil des réfugiés. Sur la page de Claudiciard, le journaliste, le collègue de RFI avec qui tu travailles, Kevin, il a annoncé par exemple qu'un foyer qui recevait des enfants de la rue à Paris, dont la plupart étaient des Noirs, ces enfants de la rue ou ces personnes qui étaient sans domicile fixe ont été obligés, on leur a demandé d'évacuer leur foyer pour donner la place aux Ukrainiens. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ce double standard qui est totalement affiché et assumé par les élites occidentales actuellement?
Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord commencer par relever quelque chose. C'est qu'au début de l'émission, vous avez commencé par présenter des condoléances aux Congolais qui ont été victimes d'un déraillement de train. Et vous avez bien dit qu'il s'agissait d'un train de marchandises, mais au lieu de parler en termes de perte de marchandises, bon, j'ai entendu aussi qu'il y a 60 personnes qui sont décédées. Donc, il y avait une dichotomie entre train de marchandises et 60 morts. Bon. Cette dichotomie ne m'étonne pas, nous sommes en République démocratique du Congo où des personnes humaines sont censées, obligées de voyager dans des trains de marchandises comme des marchandises, et lorsqu'il y a déraillement, ce qui n'est même pas rare, parce qu'il y avait juste un ravin, donc il y a déjà déficit d'entretien, ça ne m'étonne pas que les personnes humaines qui normalement n'étaient pas censées être là se retrouvent là et payent de leur vie cette incurie des dirigeants de ces pays. Je pleure mes compatriotes. Alors, pour répondre maintenant à votre question par rapport au double standard, le double standard, il est intégral. Il est intégral, il est déjà au niveau du vocabulaire. On dit la Russie a envahi l'Ukraine, tandis que les États-Unis interviennent en Afghanistan. La Russie a envahi l'Ukraine, tandis que la France et la Grande-Bretagne interviennent en Libye. Donc, lorsqu'il s'agit des Occidentaux, ceux qui croient qu'ils ont tous les droits, on parle d'intervention militaire. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'un autre pays, on parle d'invasion, invasion qui sonne déjà très mal aux oreilles et qui a des implications juridiques quand même assez graves. Ça, c'est déjà le premier standard, c'est au niveau du vocabulaire. Le deuxième double standard, c'est au niveau du traitement de l'info. On remarque que la presse occidentale est eurocentrique ou occidentocentrique. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent du monde, ils parlent de ce qu'ils appellent monde libre, donc monde occidental. Ah, la plus belle femme du monde. Ah, le monde n'est pas d'accord. Ah, le monde serait choqué. Donc, quand ils disent le monde n'est pas d'accord, le monde est choqué, le monde pense que il ne s'agit pas du Bangladesh, ni du Malawi, ni de la République démocratique du Congo. Il s'agit du monde occidental. Alors, pourquoi ce double standard? C'est tout simplement parce qu'ils se considèrent comme les centres du monde. Ils sont au centre. Ils doivent jouir de tous les privilèges possibles et imaginables. Et que tous les autres pays, les autres peuples, les autres parties du monde sont censés être à leur service. On a entendu en France, chaque fois que nous sommes à la veille des élections présidentielles, il y a un thème qui revient de façon récurrente. Le thème, c'est l'immigration, l'immigration. Et lorsqu'on parle de l'immigration, à une époque, des gens comprenaient que immigration, le mot, était une espèce de cache-sexe d'une réalité qu'on ne veut pas dire tout haut pour paraître politiquement correct. Le mot immigration cache l'immigration noire et arabe, tout simplement. Ce n'est pas les autres blancs. Alors, lorsqu'il y a guerre au Mali, qui est la conséquence de la guerre en Libye, provoquée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, lorsqu'il y a guerre à Brazzaville entre Lissouba et Sassou Nguesso, provoquée par la France et les États-Unis, lorsqu'il y a guerre en Côte d'Ivoire, provoquée par la France parce qu'il fallait dégager Laurent Gbagbo à tout prix et à n'importe quel prix, et que des Africains fuient ces foyers de tension provoqués par des Occidentaux, ben on paye des gardes-côtes libyens, on négocie avec la Libye pour qu'elle constitue une espèce de digue qui empêche les Africains d'avoir accès à ce que l'on considère comme une espèce d'Eldorado, l'Europe. Et s'ils ne sont pas retenus en Libye, où on viole leurs droits en tant qu'êtres humains, il y a des marchés aux esclaves, il y a des viols, on les arrête, on les met en prison. La Libye, qui pratique cette politique contre les droits de l'homme africain, est financée par l'Union européenne à travers le programme Frontex. Bon, si la frontière ou la digue libyenne sautait un peu, ben, la Méditerranée devient un cimetière le plus grand de l'humanité. Il y a plusieurs milliers de personnes qui y sont mortes. Et au niveau de la Méditerranée, les quelques bateaux humanitaires qui essayent tant soit peu de venir en aide aux migrants, ben, certains sont sanctionnés, ils sont victimes de certaines pressions. Et des fois, avec des migrants là-dedans, des femmes, des enfants, des malades, les bateaux sont obligés de trimballer de port en port pour essayer de trouver quel port les accepterait pour accoster et débarquer les migrants. Donc, on voit comment ils se comportent par rapport aux migrants africains. Et lorsqu'on regarde que les Ukrainiens sont les bienvenus, on ne parle plus de la misère du monde, on doit en accueillir plus ou moins 1 million, et que, par exemple, les 5 milliards de dollars a été mis sur la table pour essayer de s'en occuper, on encourage les populations des pays frontaliers de la zone des hostilités à les accueillir et que certains pays sont fiers de les ramener chez eux. La Pologne ne se plaint plus, ne ferme plus ses frontières comme elle l'a fait dernièrement avec certains réfugiés venus de l'Asie centrale. Ben, on s'est dit que là, le mot immigration, c'était juste une espèce de casse-misère. Et que la réalité de l'histoire, c'est des rapports racialisés, racialistes, pour ne pas dire racistes, entre une partie du monde, le monde judéo-chrétien blanc occidental, et les autres parties du monde. Que vous soyez chrétien, francophone, intellectuel, je parle de la France parce que je suis en France, mais cela est valable, que vous soyez chrétien, anglophone, mais africain, vous ne les ressemblez pas, ils ne veulent pas que leur population devienne colorée. Ben, la guerre de Russie a permis au monde entier de voir qui est l'homme occidental. Quand je dis l'homme occidental, je pense à l'élite, hein. Je ne pense pas à la population occidentale en général, qui est aussi victime des mêmes élites. Donc cette guerre nous a permis de voir de façon un peu plus claire les comportements de l'élite occidentale. Et c'est vraiment dommage.
Et en pleine crise, on a observé des situations assez surréalistes, ubuesques, à la frontière avec la Pologne. La frontière était ouverte aux Ukrainiens qui fouillaient les bombes, mais les étudiants africains qui fouillaient les mêmes bombes et qui voulaient quitter le pays, ils étaient carrément arrêtés à la frontière, et ce, sans vergogne.
Et grave encore, les Ukrainiens, hommes, qui fouillaient les bombes, ont une obligation légale de rester dans leur pays et de défendre le pays parce qu'il y a une loi qui oblige les hommes entre 18 et 60 ans à défendre le pays lorsque le pays est menacé. Les Africains vivant en Ukraine ne sont pas concernés par cette loi. Ils sont venus étudier, donc en cas de problème, ils peuvent s'en aller. Il n'y a rien qui les retient à l'Ukraine. Alors, on fait passer ceux qui sont obligés de violer la loi pour préserver leur vie, mais on retient ceux à qui on n'a rien demandé, qu'ils restent là. Ça aussi, c'est vraiment déplorable et c'est dommage. Et puis, il y a beaucoup de désinformation. Ceux qui accusent les autres de ne pas être des démocrates, de ne pas respecter les droits de l'homme, de ne pas connaître la liberté d'expression, de ne pas avoir une presse libre, on s'est rendu compte que leur propre presse est une presse à propagande, est une presse qui désinforme, c'est une presse qui intoxique et la guerre ne justifie pas ce genre de dérapage. Bon, l'autre fait quand même assez grave, c'est cette affaire qui consiste toujours, chaque fois qu'il y a un problème, à geler les biens de certains pays. Ben, si on n'était pas en géopolitique ou en droit international, j'aurais parlé de vol, V-O-L directement, parce que c'est ça les termes. Est-ce que lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, on a saisi les biens de Bill Gates, par exemple? Est-ce qu'on a saisi les biens de Elon Musk? Est-ce qu'on a saisi les biens de Warren Buffett? Je ne vois pas quel rapport il y a entre certains riches qu'on accuse, des fois à tort, d'être des amis de Poutine. S'ils étaient des amis de Poutine, comme on l'a dit, pourquoi ils ne vivraient pas en Russie? Ou c'est bon, hein, ils peuvent se construire des dachas en Russie. Pourquoi ils se sentaient obligés de vivre en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, dans la Côte d'Azur, au lieu d'aller vivre en Russie? Donc, cette façon de confisquer leurs biens, ça s'apparente aussi à la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. C'est de l'extorsion des biens. C'est quelque chose d'extrêmement malhonnête.
On vit une époque quand même assez particulière où les chantres de la liberté, du droit à la propriété sont les mêmes qui marchent là-dessus, où vous suivez les actualités. Dans le même mouvement, on vous apprend que la Russie empêche aux journalistes de travailler correctement et en même temps, on a suspendu Sputnik et Russia Today, partout en France, YouTube a bloqué leur signal, etc., etc. Donc, on est constamment dans une attitude antinomique où on reproche exactement à l'adversaire ce qu'on est en train de faire. On parle de censure en Russie alors qu'on ferme Russia Today. Il faudrait quand même trouver un certain sens à tous ces événements qui sont en train de nous tomber. Avant de clôturer ce dossier-là, j'ai une autre question. Au vu de ce qui se passe, quelles leçons les pays africains peuvent tirer de cette agression de la Russie contre l'Ukraine et de l'attitude générale de l'Occident face à cette agression?
La plus grande leçon à tirer est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, et que l'on ne peut mieux se défendre ou l'on est mieux défendu que par soi-même. Ça, c'est les deux premières leçons, grandes leçons qu'il faut tirer. Pourquoi? Parce que lorsque on prête son territoire aux intérêts géostratégiques occidentaux, ben si en face on a un pays puissant, on va en payer les prix. Et lorsqu'on en paye les prix, on ne verra personne, aucun occidental ne viendra se faire trouer la peau pour défendre un quelconque pays qui a joué les jeux des occidentaux dans l'échiquier géopolitique international. Vous savez, les États-Unis ont toujours abandonné les alliés. On a vu comment ils ont fait avec le Vietnam du Sud. Hein, lorsque les Vietcong sont arrivés, on a vu dernièrement en Afghanistan comment ils les ont abandonnés. C'est comme ça qu'ils abandonneront le Rwanda demain, quand ça va barder avec la République démocratique du Congo. Ça, c'est sûr qu'ils vont abandonner le Rwanda. Ils n'en ont mais vraiment rien à faire, pour ne pas être vulgaire. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Alors, l'Ukraine vient d'apprendre une grande leçon. On a un grand voisin avec qui on partage la frontière, la langue et le peuple. Au lieu de chercher à être à bon terme avec ses voisins, qu'est-ce qu'on fait ? On s'associe aux ennemis du frère, parce que c'est ça l'occasion de le dire. On s'associe aux ennemis du frère pour chercher à faire le mal au frère. Sauf que le frère, c'est quelqu'un de très puissant. Il a anticipé et il a mis ce qu'on peut appeler entre guillemets de l'ordre dans cette situation. Et qui est le plus grand perdant dans cette affaire, à part les droits internationaux ? C'est le peuple ukrainien et peut-être le peuple russe qui c'est le même peuple avec le peuple ukrainien. Donc tout ce qui touche aux Ukrainiens touche aussi aux Russes. Que les gens ne pensent pas un seul instant que cette guerre a des avantages quelconques, à part la sécurité, a des avantages quelconques pour le peuple russe, parce que lorsque le peuple ukrainien meurt, c'est le peuple russe qui est blessé dans son âme. Donc c'est des leçons que le peuple africain, beaucoup de dirigeants africains doivent retenir. Sur l'échiquier international, on se défend, et il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si on veut être la proie, on le sera. Si on veut être les dindons de la farce, on le sera. Si on veut se respecter, il faut comprendre les enjeux et se doter des moyens pour se faire respecter.
Deuxième sujet de notre émission ce soir, c'est l'arrivée de Eudoxie et Grand P à Kinshasa. Invités par les autorités de la ville. Ils sont arrivés à Kinshasa le 3 mars dernier dans le cadre d'une opération qui se voulait de sensibiliser les Kinois à la salubrité. Kinshasa est une grande ville qui compte aujourd'hui près de 17 millions, 18 millions d'habitants. Il y a de gros problèmes d'insalubrité. Et pour essayer ou pour amener les Kinois à changer leur comportement en cette matière-là, le gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, a invité ces deux artistes. J'avoue que personnellement, je ne connais pas bien leur pedigree, mais il semble que cette visite n'ait pas plu à beaucoup de Congolais. Je vais lire quelques réactions ici. Il y a un député national, M. Gaël Boussa, qui a déclaré « Certaines histoires qui se passent au Congo me dépassent. Si on est un vrai patriote, on peut pleurer. » M. Jean-Claude Katende, un défenseur des droits de l'homme bien connu sur la place à Kinshasa, a déclaré « Nous devons nous mobiliser pour que le gouverneur Ngobila soit poursuivi par la justice pour dissipation de l'argent public en invitant Grand P qui n'est pas utile au projet de propriété de Kinshasa. On ne peut pas accepter que l'argent public soit affecté à des futilités. » Et M. Billy Kambalé a déclaré « Cette ville semble être maudite. À la pollution sonore et à la crasse, le gouverneur nous ramène la distraction. » Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur, conclut-il avec amertume ou ironie, c'est selon. Kerwin Maïzo, Grand P et Eudoxie à Kinshasa, c'est des personnalités connues des internautes africains. Quel rapport on peut établir entre une opération, une mobilisation pour la salubrité de la ville, ce qui est louable, et la présence de ces artistes-là, qu'est-ce que ces artistes apportaient d'intéressant à cet effort, à ce combat pour une ville propre?
Bon, déjà, il faut préciser qu'il n'y a aucun combat pour que la ville soit propre. Donc, cette ville est une des villes parmi les plus sales d'Afrique. Il n'y a jamais eu un quelconque combat pour la propriété de cette ville. Si on veut assainir une ville telle que Kinshasa, on se dote d'un service d'assainissement ou des spécialistes de l'environnement, hein, comme on les appelle, dignes de ce nom. C'est-à-dire, on a un plan, on connaît, on identifie les besoins, on met en place les moyens pour ces besoins-là. Combien de tonnes d'immondices on produit, où est-ce que, comment on les ramasse, quand on les ramasse, on les incinère ou on les traite où. Il faut déjà mettre en place les tout à l'égout, ça on l'a pas. Donc il y a des millions de fosses septiques qui se vident comme ça dans des caniveaux à ciel ouvert qui sont en plus bouchés. La consommation énorme de sachets qui bouchent les caniveaux, qui polluent l'environnement, sans compter la pollution sonore, la pollution des tuyaux d'échappement des véhicules de très mauvaise qualité, et la qualité du carburant déjà n'est pas bonne. Et puis, il y a des eaux stagnantes, des rivières mal curées, des inondations, des débordements de toutes sortes. Donc, on a des têtards, on a des moustiques. Voilà, la ville est extrêmement sale. Il n'y a jamais eu un quelconque plan d'assainissement de cette ville. Et la ville de Kinshasa ne s'est jamais dotée des moyens quant à ça. Ça, c'était la première chose qu'il fallait signaler. La deuxième des choses, par rapport à la présence de ces deux influenceurs, c'est que par leur présence, au-delà de l'aspect distraction, il y a un soubassement important qu'il faut souligner. C'est qu'on cherche à culpabiliser la population quinoise en lui attribuant l'état d'insalubrité de la ville. Parce que lorsqu'on appelle deux influenceurs pour venir sensibiliser les Quinois, on sous-entend que les Quinois n'est pas sensible à la saleté de sa ville, et on a tout fait, bon, ça n'a pas marché, alors il faut appeler des influenceurs, peut-être extérieurs, les goûts de l'exotisme, et puis les atouts qu'ils ont à présenter, pour l'un, sa taille particulière, et pour l'autre, sa calipigie. Bon, on s'est dit, avec eux, peut-être les Quinois vont comprendre, parce qu'ils ne savent pas se prendre en charge et comment nettoyer leur ville. Mais le problème n'est pas là. Si Kinshasa est sale, ce n'est pas la faute à la population congolaise. C'est juste la faute au gouvernement qui a failli. Au gouvernement central et au gouvernement de la ville-province de Kinshasa qui a complètement failli. Aucun plan, aucun programme, pas de moyens. Alors, dans une ville qui a 70 km de long, 30 km de large, où s'entassent entre 15 et 18 millions d'habitants, vous allez demander à quelqu'un d'aller créer un système tout à l'égout de par lui-même. Ça, c'est l'État qui crée. C'est des grands travaux que l'État doit faire. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Du moment qu'il n'y a pas de poubelle dans son quartier, du moment qu'il n'y a pas un service de ramassage, il ne va pas parcourir 40 km pour aller en dehors de la ville jeter ses immondices. Ben, il va les jeter devant chez lui parce qu'il n'a pas où les jeter. Donc, ce n'est pas de leur faute. Les Quinois se comportent comme se comporterait n'importe quel peuple au monde, même le peuple japonais considéré comme le plus propre. Aujourd'hui, si vous supprimez tout service d'évacuation des immondices, Tokyo deviendra sale au bout d'une semaine. Si vous supprimez tous les systèmes de tout à l'égout, Tokyo sera congestionné, ça va boucher de partout et il y aura des pestilences. Ça, ce n'est même pas une affaire des Quinois. Un Parisien, un Londonien, un New Yorkais, ou un Moscovite, tous se comporteront exactement comme se comportent les Chinois lorsque l'État est absent et que l'État a failli. Ça, c'est la deuxième chose que je dois signaler. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'au Congo, il y a des influenceurs. Il y a des gens qui sont suivis par des millions de personnes. D'ailleurs, nous battons tous les records, par exemple, ici en France, même en Belgique. Nous avons ceux qui tiennent les mouvements hip-hop, les musiques urbaines. Ce sont des jeunes Congolais. Là, je ne parle que des Congolais de l'étranger. Mais sur place, nous avons nos stars qui drainent des millions de personnes. Si l'affaire, c'était une affaire de sensibilisation, on pouvait prendre ces gens-là, au lieu d'aller dépenser des maigres moyens de la ville autour d'1 million de dollars, pour faire venir deux personnes dont on ne voit pas la valeur ajoutée ni l'apport dans la lutte contre l'insalubrité de Kinshasa, qui est victime de manque de politique, des luttes contre l'insalubrité. Et donc, inviter ces deux personnes, ça ne servait à rien. Ben après, c'est normal que les Congolais ou les Kinois, dépités, puissent, au lieu de s'attaquer qu'au gouverneur, c'est ce qu'ils ont fait, puissent aussi débiter leur colère vis-à-vis des moyens que le gouverneur a utilisés, c'est-à-dire Madame Edoxis Yao et Monsieur Grampé. Ce n'est pas de la xénophobie comme certains ont voulu le faire passer. C'est juste que les gens sont en colère, ils sont dépités, ils sont déçus et on s'attaque à la fois à la personne qui est la cause de cette venue, mais également on s'attaque aussi aux instruments que cette personne a utilisés, c'est-à-dire ces deux influenceurs qui sont venus apprendre au Kinois, je ne sais dans quelle langue, comment il faut être propre. Donc, que les Guinéens, les Ivoiriens ne pensent pas un seul instant que les Congolais ont réagi parce que c'était des Guinéens, des Ivoiriens. Les Congolais sont un peuple très ouvert et ils ont toujours été en bon terme, surtout avec les Ivoiriens. Le Congo, c'était une espèce de laboratoire, la cuisine, où on préparait la musique africaine. Et Abidjan, c'était la table où on servait la musique africaine. Donc, il y a toujours eu des coopérations sud-sud entre déjà la Guinée et le Congo. Beaucoup de Guinéens ont fait fortune à Kinshasa. Et entre les Ivoiriens et les Congolais, cette affaire, c'est juste un malheureux hasard dû au mauvais calcul de certaines autorités congolaises. Donc, c'était une opération contre-productive et la plus grande victime de cette opération, c'est les caisses de la ville de Kinshasa.
Je pense en effet aussi que les Congolais en général ou les Kinois en particulier n'en veulent pas spécialement à ces deux invités qui étaient invités et qui ont répondu à une invitation, mais c'est plus la manifestation de la colère qui a fait qu'ils ont parfois été la cible, mais je ne pense pas que le problème c'était eux. Le problème reste au niveau de ceux qui ont imaginé que pour faire comprendre aux Kinois qu'il faut être propre, il faut inviter Doxy Yao et Grampé. Tu as développé une approche là qui pour certains ou que les autres considéreraient comme une manière de déresponsabiliser le Kinois par rapport à la propreté lorsque tu dis que c'est à la ville d'organiser le système d'évacuation et qu'en fait, les Kinois, eux, se comportent comme ils se comportent parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de structure et d'infrastructure pour aider à garder la ville propre. Est-ce que ce n'est pas une forme de déresponsabilisation du citoyen congolais ou du citoyen Kinois?
Mais pour déresponsabiliser quelqu'un, il faut déjà qu'il soit responsable. Or, moi, je considère qu'il n'est pas responsable. Et je vais même préciser que il a les comportements normaux que tout être humain aurait dans pareille situation. Que ce soit même à Tokyo. Vous savez, pendant la Coupe du Monde, on voyait les Japonais nettoyer même leurs versiers, leurs gradins. Mais bon, vous arrivez à Tokyo, il nettoie les versiers, les gradins, il sort dehors, il n'y a pas de poubelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ça chez lui? Il met sous son lit? Ben, lundi, mardi, mercredi, 5 jours, 6 jours, il va mettre des poubelles chez lui et ça va s'accumuler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les jeter dans la rue. Donc, moi, j'estime toujours que le boulot de l'assainissement d'une ville, c'est le boulot des structures officielles. Et ce n'est pas la population est agent de la propriété lorsque l'État a fait ce que l'État avait. Lorsque l'État fait son devoir. Ben, si l'État ne fait pas son devoir, on ne peut pas accuser la population. Déjà, l'éducation civique de la population, c'est l'État qui s'en occupe. Au niveau du système d'enseignement, de l'éducation nationale, donc l'éducation civique, c'est par là. Et ensuite, au niveau des partis politiques, lorsque les systèmes politiques fonctionnent normalement, les partis politiques s'occupent de l'éducation politique et civique des membres des partis politiques. Mais l'éducation civique en général, c'est l'éducation nationale qui l'organise. Ben, après, tout le système des valeurs morales, ça c'est au niveau de la famille, éducation de base, et au niveau des structures, par exemple, religieuses, telles que les églises catholiques, protestantes, orthodoxes, et voilà, ou les musulmans. Mais bon, voilà. Donc moi, je ne pense pas que les Kinois est irresponsable. C'est l'État qui ne joue pas son rôle. C'est lui le seul responsable et c'est lui qu'on doit désigner du doigt. Et d'ailleurs, on doit crier « haro » sur l'État congolais. Quand je dis « haro » sur l'État congolais, « haro » sur les dirigeants congolais, voilà, qui ont failli.
Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans le collimateur de l'actualité, Vianney Missumbi, Magloire Mpimbi, Kerwin Maïso, et nous avons abordé jusque-là les deux premiers thèmes de l'émission, c'était la crise Russie-Ukraine et la visite de Doxy Yao et Grand-Pé à Kinshasa. Vous pouvez nous suivre sur www.sudglobalradio.com, sur la chaîne YouTube Kerwin Maïso, mais aussi sur votre plateforme de lecture de podcast préférée. Vous nous retrouvez, il suffit de chercher le collimateur de l'actualité. Merci en tout cas de nous rester fidèles et merci de commenter et de partager et merci de vous abonner. Dernier sujet de ce programme, Kerwin Maïso, on va parler de la santé du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va pas en parler, on va pas l'aborder spécialement parce que nous n'avons pas plus d'informations que ça et ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet que l'on va aborder, c'est plutôt la cacophonie au niveau de la communication sur le problème et pourquoi est-ce qu'il y a une telle cacophonie quand il s'agit de la santé du président. Et ensuite, on va aborder la question du fait que le président est obligé de se rendre à l'étranger pour suivre des soins, alors que le pays dispose des intelligences ou le pays dispose des hôpitaux. Est-ce que le fait que des présidents africains aillent recevoir leurs soins à l'étranger, est-ce que cela ne pose pas un problème de sécurité dans une certaine mesure? Et puis est-ce que cela ne pose pas un autre problème de conscience dans le fait qu'ils sont censés mettre à disposition de la population des infrastructures nécessaires pour les maintenir en santé? Quand vous avez le président qui est malade, il est en Europe. Actuellement, au Congo-Kinshasa, il y a le vice-président de l'Assemblée nationale qui est en Europe pour soigner son genou, le président Tshisekedi qui est en Belgique pour soigner on ne sait pas très bien quoi exactement, et vous avez aussi Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, qui se trouve en Europe pour des soins. Est-ce que cela ne pose pas de problème de sécurité pour le pays? Et est-ce qu'il n'y a pas un questionnement à se poser sur le fait qu'il n'y a jamais dans ces pays des hôpitaux dignes de ce nom pour soigner toute la population, donc y compris le président de la République?
Ben, il faut partir d'un constat. La plupart des dirigeants africains ne tirent pas leur légitimité du peuple. Ils tirent leur légitimité de ceux qui les ont choisis, cooptés, pour qu'ils dirigent pour le compte des intérêts occidentaux des pays africains. Donc du coup, lorsque on est l'élu du peuple, on rend compte à ce peuple. Mais lorsque l'on est un agent des intérêts étrangers dans son propre pays, on rend beaucoup plus compte sur tous les plans à ceux qui l'ont choisi pour être président. Donc, du coup, on s'en remet entre leurs mains. La sécurité entre leurs mains, la sécurité présente et future, la sécurité présente, bon, on va aller chercher des renseignements, une coopération sécuritaire. La sécurité future, c'est on achète des villas chez les maîtres parce que après le pouvoir, si on ne mourait pas au pouvoir, bon, on va aller se réfugier chez les maîtres. Les présidents africains n'envisagent pas un seul instant vivre une retraite paisible dans les pays, bien que c'est un peu rare. Ça commence à venir petit à petit, mais ils n'imaginent pas vivre une retraite paisible au pays. Lorsqu'on est malade, même une petite rage des dents, bon, on doit aller en Occident se faire soigner. Or, quand on va en Occident, on y laisse son ADN, on y laisse ses empreintes digitales, on y laisse ses empreintes olfactiles, on est à nu en fait. Tout l'état de santé est connu, les forces et les faiblesses. Et les autres peuvent anticiper, peuvent connaître où taper, comment gérer, parce qu'ils ont votre santé entre les mains. Et si vous dérangez, on peut toujours trouver un moyen médical simple de vous faire passer des vies à trépas, assez facilement. Alors, la plupart des dirigeants africains, lorsque vous regardez leurs fiches d'identité ou lorsque vous regardez leur épitaphe, c'est quoi ? C'est né dans X ville ou X village au pays et mort dans X pays occidental. Ils sont tous nés, je ne sais pas moi, à Lissala, ils sont nés, je ne sais pas moi, dans quel village. Mais si vous regardez les lieux de décès, c'est toujours Paris, Londres, New York, Miami, Toronto. Ils meurent toujours à l'étranger et cela ne les gêne outre mesure. Regardez, dernièrement, le président Macron partait en Russie. On lui a exigé un vaccin Spoutnik. Bien entendu, il ne le fera pas, donc il a refusé. Et ensuite, il fallait qu'il fasse un test russe contre le Covid. Mais lui, il savait qu'avec ce test, l'ADN était récupéré, il a refusé. Ce qui a donné à Poutine la raison légitime de l'accueillir sur une table longiligne où il était, je crois, plus de 10 mètres de son interlocuteur. Parce que la raison officielle, c'était que pas nous, disons, on ne reconnaît pas les vaccins que vous avez pris chez vous. Bon, votre test, on ne reconnaît pas. Donc, bon, voilà, pour ne pas nous contaminer, vous restez loin de la table. Au moins, eux, c'est une guerre de puissance, c'est une guerre de respectabilité. Vous me respectez, je vous respecte. Tandis que chez nous, on se comporte comme des enfants, comme des irresponsables. Les enfants étudient à l'extérieur. La femme du ministre va accoucher à l'extérieur, la femme du président va accoucher à l'extérieur, le président et tous les membres du gouvernement vont se faire soigner à l'extérieur, et une telle personne qui se soigne à l'extérieur, qui n'a pas confiance à son système de formation, qui n'a pas confiance à son système de santé, ben, on ne voit pas comment il peut faire des efforts pour améliorer ces systèmes. Je pense que les médecins, par exemple, congolais ou même béninois, pourquoi pas nigérians, ils sont très performants aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Ils sont très performants. Si on construisait des hôpitaux de même standing qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, dans différents pays africains, je pense qu'il y a des Africains compétents. Et la chance de l'Afrique, c'est que les médecins sont formés presque dans tous les pays. Ils vont ramener tous les systèmes des différents pays, les systèmes britanniques, les systèmes américains, les systèmes indiens, les systèmes chinois, ils vont les ramener sur place. Et toutes ces compétences mises ensemble avec l'environnement familier, je pense que ça peut produire des résultats positifs. Mais bon, comme il y a ces complexes d'infériorité, ce qui est bon, c'est ce qui se fait ailleurs. Donc, ceux qui sont censés s'occuper de la population abandonnent la population à leur triste sort pour venir se livrer corps et biens chez les Occidentaux et venir dépenser des devises. C'est quelque chose de très déplorable, de très regrettable et c'est justement les talons d'Achille de beaucoup de pays africains. N'oubliez jamais, le président de la République est une institution. Et lorsqu'une institution pareille, généralement la première de chaque pays africain, se met à la merci des services de renseignement des pays qui sont en compétition d'intérêt avec nous et leurs intérêts avec les nôtres sont généralement antagonistes, c'est d'une bêtise abyssale. Et ça, les dirigeants africains les font sans vergogne, c'est vraiment dommage.
Il y a eu une cacophonie dans la communication. On a d'abord dit que le président a été opéré du cœur, c'est la Libre Belgique qui a lancé l'information. Information qui a été contredite par la famille, je pense, qui disait que le président allait bien, qu'il n'avait aucun souci de santé. Ensuite, il a été dit que c'était pour un check-up, qu'il était en Europe. Enfin, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose aussi. Entre-temps, il a été dit que...
C'était une hernie discale, selon le soir.
Pour une hernie discale et il était sous un traitement conservateur pour une hernie discale. Ok, supposons qu'il s'agisse d'une hernie discale, un traitement conservateur pour une hernie discale, c'est la physiothérapie et c'est des antidouleurs. Alors, pour moi, faire 8 heures d'avion pour aller recevoir du paracétamol et faire des exercices de kiné, c'est quand même un peu trop cher payé pour un pays qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, le journaliste que tu es, comment est-ce qu'est-ce qu'il ressent quand il voit cette cacophonie autour de la santé du président? Est-ce que la santé du président, c'est un tabou en Afrique?
Ben, on devrait partir d'un principe simple. Le président est une institution et pour accéder à ses postes et devenir cette institution, il faut remplir certaines conditions. Avoir sa tête, toute sa tête, être en bonne santé, avoir une certaine formation et puis remplir un certain nombre de conditions légales. Mais parmi ces conditions, j'ai bien dit, être en bonne santé. Pourquoi ? Parce que la santé du président a de l'impact sur la santé de l'institution et par ricochet sur la bonne marche du pays. Donc ce n'est pas une information qui devait être taboue, mais c'est une information que l'électeur doit savoir déjà avant les élections pour se déterminer et pendant l'exercice du pouvoir pour permettre à ce que les ajustements se fassent conformément à la Constitution lorsque le président n'est plus en capacité mentale, psychologique ou physique, pourquoi pas sanitaire, de continuer à diriger le pays en bon père de famille, entre guillemets. Donc, quand on regarde la cacophonie, on a comme l'impression qu'il y a un souci de dissimulation. Quand le porte-parole de la présidence dit que la santé du président est privée, ça, c'est pas vrai, et qu'il n'est pas malade, il n'a subi aucune opération. Bon. Mais son adjoint dit qu'il n'est pas malade, mais il fait juste un check-up. Un check-up, un peu de repos, et puis il va rentrer. Il y a déjà... Elle s'écarte légèrement de son titulaire. Ben, après, la famille dément, la Libre Belgique parle d'une opération à cœur ouvert, mais en citant des sources présidentielles, et qui disent que la situation est grave, tandis que le soir.be a du mal à vérifier certaines informations, mais affirme quand même qu'il s'agit d'une intervention en rapport avec une hernie discale. Et pendant ce temps, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, auprès du Benelux et de l'Union européenne, parle d'une hernie au niveau des cervicales. Bon, des fois, on se dit, c'est discal ou c'est au niveau des cervicales. Et la politique étrangère d'un pays, c'est l'apanage ou l'affaire du président et du ministre des Affaires étrangères dont dépendent les ambassades. Bon, lorsque l'ambassade dit le contraire de ce que dit le président, qui lui aussi gère la politique étrangère, bon là, il est concerné, il est à l'étranger, on se dit, est-ce que l'ambassade s'est-il concerté avec la présidence pour parler d'une même voix? Toute cette cacophonie envoie un message à la population congolaise, c'est qu'il y a une entourloupe. C'est comme si on cherche à cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? C'est de donner l'image d'invulnérabilité, comme on l'a surnommé béton, alors il ne tombe jamais malade, il est dur comme du béton armé, il est insensible au froid, au chaud, on peut être même ironique, à la misère de la population congolaise et aux émotions, donc il est en forme, il est venu se promener en Belgique, comme ça en urgence, hein? Lui qui a été victime d'un coup d'État, mais il voyage, il laisse le pays en proie à des menaces de coup d'État, lui se retrouve à l'étranger, et à l'étranger, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a, il est malade, il n'est pas malade, est-ce que c'est une stratégie de communication pour permettre à certaines personnes de son camp de sortir de leur tanière et de montrer ce qu'ils sont réellement? On ne sait pas. Et lorsqu'on publie une photo avec ces deux médecins, son infirmière en Belgique et un médecin belge, ben, les communiqués de l'ambassade parlent d'une minerve qu'on devait lui mettre. Bon, on voit sur les photos qu'il n'a pas de minerve, comme s'il était en forme. Donc, ça doit être une vieille photo. Ben après, si c'est une nouvelle photo, mais pourquoi il n'y a pas de minerve? Qu'on nous explique. Et puis, le médecin Christian Raftopoulos est un spécialiste de chiro, c'est un neurochirurgien, et spécialiste aussi des épilepsies réfractaires. Est-ce qu'il a un problème d'épilepsie lorsqu'on sait que lors de la prestation des serments, il a presque perdu connaissance? Il a fait une crise qui ressemble peut-être à une crise d'épilepsie lorsqu'il a commencé à tenir des propos incohérents du genre « je m'engage à servir Loretta, Mertira », il a dit des choses. Donc, on peut juste se poser des questions. Est-ce qu'il est à côté de lui comme neurochirurgien ou comme spécialiste des épilepsies? Ça aussi, c'est des questions. Et tout ça, c'est tatillonne, c'est brouillonne, et ça envoie juste un message qu'il y a quelque chose à cacher.
Alors, à ce stade, on n'aura pas plus d'informations. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, s'il est malade, c'est prompt rétablissement, qu'il regagne Kinshasa, parce que c'est là qu'il est attendu, c'est là qu'il est appelé à exercer ses fonctions. Kerwin Maizo, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce quatrième rendez-vous du collimateur de l'actualité. Merci à nos auditeurs, à nos web téléspectateurs. Le collimateur de l'actualité est à retrouver sur www.sudglobalradio.com, sur la chaîne YouTube Kerwin Maizo et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Je vous invite vraiment à venir visiter le site www.sudglobalradio.com ou www.sudglobalradio.net. Le site a fait peau neuve et nous serions heureux d'avoir vos commentaires là-dessus. Kerwin Maizo, on se dit au revoir et à dans 2 semaines, Inch'Allah.
Dans 2 semaines et nous continuons à réfléchir pendant tout ce mois de mars sur les droits des femmes. Parce que c'est le mois dédié à la défense des droits des femmes. Donc, nous continuons la réflexion, même en dehors des émissions.
Merci, Kerwin. À bientôt.
Merci, ma gloire. Merci, Vianney.